Allo Ciné présente Rencontre.
Sébastien Lifschitz, bonjour.
Bonjour.
Nous nous rencontrons à l'occasion du Festival du film francophone d'Angoulême où vous venez présenter en avant-première votre tout dernier documentaire Madame Hoffmann. Votre documentaire prend place à l'hôpital Nord de Marseille. Vous y suivez une cadre infirmière proche de la retraite après 40 ans de service. Vous n'êtes jamais là où l'on vous attend, d'adolescente à Casa Susana, et donc ce nouveau film. Comment est né ce nouveau projet ?
L'idée, c'était de faire le portrait d'une femme en lutte. Et le hasard a voulu que je rencontre en fait Sylvie Hoffmann à Marseille. En fait, elle devait me renseigner sur des numéros de téléphone d'infirmières que je cherchais à contacter pendant le casting du film. Et tout d'un coup, j'ai vu cette femme arriver, je l'ai trouvée incroyable. Quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui est sans filtre, vraiment à la marseillaise. Et elle est restée dans un coin de ma tête pendant tout ce casting et j'arrivais pas à l'oublier. Et tout d'un coup, un jour, je me suis dit, il faut que je la revoie. Je suis allée la voir à l'hôpital. Et là, tout d'un coup, en la voyant travailler, il y a eu comme l'évidence que la femme que je cherchais, c'était elle. Ça a fait son chemin comme ça dans ma tête. Souvent, en fait, dans le documentaire, vous partez d'idées comme ça ou de vous avez un désir, mais qui n'est pas peut-être complètement défini. Et c'est finalement les rencontres en fait qui font les films. Il y a quelqu'un comme ça qui surgit du réel et qui s'impose à vous. Et tout d'un coup, un film peut commencer. Et Sylvie, ça a vraiment été ça, en fait. Dans le fond, mon idée était un petit peu abstraite au départ, de faire de ce portrait d'une femme en lutte et qui puisse incarner qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'élever des enfants seuls, d'avoir un petit boulot et d'avoir des difficultés de s'en sortir. Et puis voilà, je rencontre Sylvie Hoffmann et tout d'un coup le film se déplace, se complexifie, ramène le lieu de l'hôpital parce qu'elle est infirmière. Et j'ai trouvé tout ça passionnant. Et d'autant plus quand je suis allée dans son service et que j'ai rencontré aussi son équipe, tout d'un coup c'était aussi filmer un lieu. C'était non seulement faire un portrait, mais c'était aussi filmer un métier. Et toute une équipe. Et donc tout ça a été finalement déterminant pour que la production et moi on se décide à se lancer. Et puis surtout il fallait évidemment l'accord de Sylvie qui était très 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 surprise en fait quand je lui ai dit finalement le film c'est toi. Elle s'y attendait absolument pas. Et je pense que comme elle a un peu le goût du défi, qu'elle est assez joueuse, comme ça, elle a dit, après tout, pourquoi pas. Après, sa vie était tellement pleine à ce moment-là, elle avait tellement de choses à quoi penser, notamment à cause de tout ce qui se passait à l'hôpital, que d'une certaine manière, j'étais presque un détail en fait dans sa vie, le fait qu'il y ait une caméra comme ça, H24 à ses côtés, dans le fond, était. Je pense que ça n'a pas créé tellement de perturbations. Et finalement, elle s'en est non seulement très bien accommodée, mais je pense qu'elle a aimé vivre cette expérience, en fait, qui était quelque chose de complètement inédit dans sa vie. Et puis, elle voyait qu'il pouvait y avoir des enjeux forts, en fait, à l'idée, tout d'un coup, de montrer la réalité de son métier. Voilà.
Et il n'y a jamais le côté sensationnaliste entre guillemets qu'on peut voir parfois dans des documentaires télé. Ça n'a absolument rien à voir parce que l'hôpital a été filmé, mais là c'est pas un hôpital que vous filmez, c'est vraiment cette personne. Et l'autre chose que j'aimerais aborder, c'est que vous avez commencé à le dire, mais d'autres sujets qui arrivent avec elle. Donc, je ne sais pas si, comme pour de la fiction, c'est spoilé, mais il y a la question du cancer, il y a la question du départ à la retraite. Et tout ça, ça vient avec elle et ça fait que ce documentaire est très riche.
Sylvie, elle a 40 ans d'hôpital derrière elle. D'habitude, une infirmière, en moyenne, elle reste à peu près 7 ans à l'hôpital. Donc Sylvie, elle a tenu 40 ans, ce qui est une chose incroyable, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir, finalement, qu'est-ce que ces 40 ans ont fait d'elle, comment elle s'est construite à travers tous ces différents métiers qu'elle a fait à l'hôpital, parce qu'elle a commencé tout en bas, je dirais. Elle a commencé par être puéricultrice, ensuite elle est allée aux urgences, urgence enfant, urgence adulte, ensuite elle est devenue infirmière dans X et X services, si vous voulez. Donc elle a appris différentes spécialités médicales et surtout des situations très différentes les unes des autres, parce que en fonction des services, dans le fond, je dirais vos responsabilités et la charge du travail que vous avez est très différente. Et Sylvie, donc du coup, moi quand je la rencontre, elle est, je dirais, remplie de tout ça, de toutes ces vies, de toutes ces expériences en fait qu'elle a vécues. Et c'est ça qui me passionnait en fait. C'était, j'arrive comme à un moment d'aboutissement de sa vie. Et du coup, avoir finalement cette chance de pouvoir la regarder l'espace d'un an dans ce service où elle a un rôle déterminant, parce qu'elle est infirmière cadre. Et une infirmière cadre, en fait, c'est vraiment la clé de voûte en fait, d'un édifice. Elle est déterminante, je dirais, dans la cohésion d'un service. Donc le film, c'est à la fois le portrait de sa vie, mais c'est aussi filmer un métier. Le fonctionnement d'un hôpital, et le CHU, l'hôpital Nord de Marseille, nous a complètement laissé libre en fait pendant une année de filmer tout ce qu'on voulait, évidemment avec l'accord de chacun, de tous les gens qu'on voit dans le film ont donné leur accord, mais on nous a laissé aussi complètement libre, hein, voilà, de filmer tout ce qui était nécessaire en fait, en gros tout, voilà.
J'aime beaucoup aussi les interactions que vous filmez avec ses collègues et filles. Il y a un moment vers la fin du documentaire où c'est très, très joyeux. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que est évoquée la... Alors, je ne sais pas si on dit crise des vocations, mais le fait que c'est compliqué aujourd'hui de trouver du personnel et que, voilà, comme vous le disiez, c'est un métier tellement dur qu'on ne reste pas forcément très longtemps...
Le film, c'est aussi une sorte d'état des lieux de l'hôpital. On est à un moment très particulier et où, évidemment, le Covid est présent, mais vous avez aussi la fin du Covid qui est progressive, en fait. Donc le film suit aussi, l'évolution de l'épidémie. Et vous avez finalement cette équipe, hein, face à tous les problèmes complètement dingues, évidemment, que pose une épidémie dans un tel service. Et donc le film raconte évidemment aussi ça. Et comment Sylvie essaye de se battre comme une dingue, en fait, pour essayer de faire fonctionner tout simplement un service comme le sien, en fait. Et on voit que c'est une lutte permanente, il n'y a jamais de répit. Elle en paie d'ailleurs le prix assez cher. Et en même temps, en contrepoint, et c'est ça que je trouve génial, c'est que vous êtes à Marseille, vous êtes dans cette culture du Sud, je dirais très... c'est plus que vivante, quoi. Vous avez une espèce d'humour complètement décalé. C'est quand même une équipe de femmes à 99%, et vous voyez cette cohésion, ce monde de femmes comme ça que le film filme, et que j'ai trouvé fantastique en fait. Elles ont une façon d'être extrêmement solidaires, complices, de se vanner tout en se soutenant, et je trouve que l'humour qu'il y a dans le film, pour moi, il est tout aussi important que de révéler aussi toutes les difficultés, évidemment, de l'hôpital et comment ce lieu est une espèce de lieu miroir de la société française et de tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle a vécu, en tout cas, ces deux dernières années.
Il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous, parce que donc il n'y a pas si longtemps, sur Arte est arrivé un documentaire qui s'appelle Casa Susana, qui est encore disponible, et également un très beau film, alors très différent de celui-ci. Mais j'avais envie de revenir un petit peu sur le début de ce projet, et savoir comment s'est passée cette quête pour trouver les témoins du film.
Alors, Casa Susana, alors, c'est une toute autre histoire parce que c'est une histoire américaine. Et en fait, l'histoire, elle commence avec la découverte au tout début des années 2000 d'à peu près 300 photos qui sont trouvées sur des puces à New York par un couple d'antiquaires. Et les photos sont tellement dingues parce qu'on y voit une bande de travestis dans les années 50-60 au milieu de la campagne. En train de jouer au Scrabble, de jardiner, de faire tout un repas de spaghettis ensemble. Et tout d'un coup, on se dit, mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font habillés de manière assez sophistiquée? Parce que tous ces travestis sont très élégants sur les photos. Ils ont l'air d'être au milieu de nulle part, au fin fond de la campagne américaine, comme ça. Et donc, ces antiquaires vont présenter ces photos à un éditeur qui est lui aussi subjugué par ces images et décide d'en faire un livre tout en ne sachant strictement rien de l'histoire derrière ces photos et de qui sont ces gens, où on est. Et un livre est publié en 2004 qui s'appelle Casa Susana. Et moi, à l'époque, j'étais déjà collectionneur de photos amateurs et notamment de photos de travestis. Et donc, j'avais acheté le livre, en fait. Mais je ne savais pas cette histoire, en fait. Et ensuite, 2 ans après la publication de ce livre, une journaliste du New York Times, en fait, fait une enquête et découvre le début de l'histoire. Elle commence à réunir certains éléments, notamment découvre Kate, qui est dans le film, avec qui elle parle. Et Kate commence à lui donner un certain nombre d'éléments pour lui raconter en gros à peu près qu'est-ce que c'était que ce lieu. Et ensuite, en 2015, moi, je prépare une exposition pour les rencontres de la photo de Arles, où je montre ma collection de photos travesties hommes et femmes. L'exposition s'appelait Mauvais Genre. Et dans le cadre de cette exposition, je rencontre une historienne de la photo qui a fait un mémoire sur la Casa Susana, qui s'appelle Isabelle Bonnet. Et Isabelle a continué l'enquête du New York Times et trouve d'autres éléments, notamment l'adresse de la maison, le véritable nom de Susana, voilà, tout un tas comme ça d'informations. Et me raconte en fait les informations donc supplémentaires en fait qu'elle a découvertes. Et d'une certaine manière, le puzzle commence à se constituer. Et je lui dis, mais cette histoire est incroyable, il faut vraiment faire un film. Et tout est parti de là, si vous voulez, en fait. Ça a été une sorte de long cheminement. Et petit à petit, comme ça, on a réussi à recomposer, en fait, je dirais, l'image globale de toute cette histoire et de se lancer dans la production de ce film, en fait. Mais dans le fond, quand on y réfléchit, en fait, cette histoire, elle n'aurait jamais dû être révélée. Ce film n'aurait jamais dû exister. En fait, cette histoire aurait dû rester secrète parce que c'était un réseau clandestin de travestis aux États-Unis dans les années 50-60. Ces photos, normalement, ne circulaient pas. Elles restaient évidemment chez les uns et les autres. Donc, c'est presque miraculeux qu'on en ait eu connaissance et que petit à petit, on ait réussi comme ça à pister, je dirais, à la fois le lieu, les gens, pour pouvoir raconter cette histoire. Et en même temps, cette histoire, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet de comprendre aujourd'hui comment se sont constitués les premiers réseaux, en fait, clandestins, queer, aux États-Unis. Mais il y en avait d'autres aussi en Europe, comme ça, qui existaient. Au départ, finalement, que ce soit les homosexuels ou les travestis et les premières personnes transgenres, toutes ces personnes, en fait, n'avaient pas d'autre choix, en fait, que de s'invisibiliser, on pourrait dire, dans la société, que de vivre par petits groupes comme ça, clandestins, secrets, et d'essayer, bon an mal an, de mener une vie au plus près de leurs désirs et de leur identité.
C'est un documentaire passionnant, et donc l'exposition aussi qui est aux rencontres d'Arles jusqu'à fin septembre conseille. Je passe à un autre film parce que voilà, vous avez également réalisé il y a quelques années Adolescente qui a été césarisé et il est sur Netflix en ce moment. Je voulais élargir la question aux plateformes. Je me demandais parce que Petite Fille a aussi été diffusée sur Netflix. Est-ce que quand vos documentaires arrivent sur les plateformes comme Netflix, ça amène un nouveau public? Vous avez des retours? J'étais curieuse de ça.
Bah c'est évident parce que je dirais le public que touche Netflix est extrêmement large, extrêmement divers. Notamment, il y a beaucoup de jeunes en fait qui regardent les plateformes. Donc pour moi, c'était extrêmement important qu'une chaîne comme Netflix, d'abord, ait le désir d'acquérir ses films et de les diffuser à toute cette partie en fait du public que vous touchez pas nécessairement en fait au cinéma. Après, ce qui est vrai, c'est que quand Petite Fille, par exemple, a été diffusée sur Arte, le film a fait une très forte audience, en fait, et il avait déjà, je dirais, touché énormément de gens extrêmement divers. J'ai reçu énormément de messages, et ça a été pour moi vraiment une grande surprise en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me disais bon, déjà si le film intéresse un petit groupe et notamment toute la communauté transgenre et déjà bah, j'aurais été content déjà si le film avait atteint ça. Mais de voir finalement je dirais cet accueil incroyable que le film a reçu, c'est vrai que ça m'a surpris. Mais je pense que si les gens ne s'attendaient pas à une telle histoire, les gens dans le fond avaient très peu de connaissances en fait sur ces questions de transidentité. On voit bien que les questions de genre aujourd'hui sont très présentes dans les médias, mais dans le fond, les gens ne savent pas très bien de quoi on parle en fait. Et je pense que Petite Fille il y a une dimension très pédagogique aussi dans le film, qui est non seulement on rencontre évidemment toute une famille, c'est un portrait de famille et c'est l'histoire de Sacha, mais c'est aussi un film qui, à travers cette histoire, essaye de faire comprendre à tous en fait toutes ces questions extrêmement sensibles autour de l'identité de genre, qu'on appelle médicalement la dysphorie de genre, et permet véritablement de sortir de tous ces fantasmes complètement délirants qu'on peut lire à droite et à gauche, et notamment de tous ces discours très transphobes que je continue de lire et que je trouve abjects. Et j'espère que le film a permis vraiment de sensibiliser vraiment le plus grand nombre.
Je vais me demander si un retour à la fiction était envisagé par vous, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête?
Ouais, c'est en train de revenir en fait. Là, je vais commencer dans quelques semaines à travailler à l'écriture en fait d'un projet de fiction, tout en continuant le documentaire. Et le désir est en train de revenir. Ça a pris du temps en fait. J'ai été tellement plongé dans ces projets de documentaire que j'ai adoré faire. Mais des fois, vous avez des histoires que vous ne pouvez raconter que sur le mode de la fiction, pour plein de raisons. Mais c'était peut-être un peu tôt, j'avais pas forcément envie de me confronter à ça. Et là, je sais pas pourquoi, c'est assez, dans le fond, on sait pas très bien comment un désir naît en soi et pourquoi quelque chose s'impose à vous. Mais là, c'est vrai que j'en ai envie. Donc voilà, ça va me prendre un peu de temps parce que là, je démarre l'écriture, mais j'espère que bientôt, voilà, je pourrai montrer une prochaine fiction.
Et donc en parallèle, vous commencez un travail sur un autre documentaire, c'est
ça? Sur deux autres documentaires.
Ah, deux autres, d'accord. Et ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? C'est trop tôt?
Ah non, c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Je préfère toujours, c'est un peu aussi, à la fois par superstition, puis voilà, c'est toujours fragile quand on est en préparation. Un projet, il faut, voilà, je suis peut-être un petit peu trop protecteur, mais...
Oui, et puis surtout l'exemple par exemple de Madame Hoffman montre que vous pouvez avoir une idée et puis elle évolue,
ça se déplace tout le temps, c'est vrai.
Donc ça se trouve aujourd'hui vous me diriez ça va parler de ça et puis dans deux ans ça sera centré sur une personne ou assez éloigné.
Bah, adolescente, par exemple. Au départ, ça devait être le portrait d'un adolescent. Et finalement, je me suis retrouvé à filmer deux adolescentes et à filmer cette amitié pendant 5 ans. Évidemment, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Il y a toujours une forme de déplacement entre une idée que vous avez de départ et finalement ce que la réalité va vous offrir, en fait. Donc, en tout cas, là, voilà, j'ai plusieurs idées. Pour moi, le documentaire est très important, en fait, dans ma relation au cinéma. Donc, c'est pas parce que je fais une fiction tout d'un coup que je vais arrêter le documentaire, non. Pour moi, j'ai besoin des deux, en fait.
Je me demandais en préparant si Casa Susana, ça aurait pu être une fiction aussi.
Ce serait une fiction. Casa Susana, ça serait une fiction géniale. Il y aurait. D'ailleurs, des producteurs américains nous ont contactés par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui se passera et si finalement ces projets se feront, mais c'est évident. Parce qu'en plus, ce documentaire, je n'ai pas pu développer toutes les histoires. Parce que si vous prenez chaque histoire individuelle. C'est un film à chaque fois, je dirais. C'est fou, si vous voulez, les vies que ces gens ont dû traverser. Vous avez des milieux sociaux extrêmement différents, des obstacles complètement dingues que les uns et les autres ont dû franchir. Ce sont des vies qui sont tellement romanesques et passionnantes à tous les niveaux. C'est sûr que ça ferait des films de fiction assez dingues.
Une série, une collection centrée sur différents personnages à chaque épisode. Alors ce sera peut-être la dernière question. J'ai vu en préparant l'interview que vous aviez réalisé un documentaire de 30 minutes qui s'appelle Garçons sensibles. Mmh. Est-ce qu'on pourra le voir un jour? Est-ce qu'il a été diffusé en dehors de festival?
Voilà. Alors pour l'instant, en fait, il avait été fait pour les Rencontres d'Arles. Il a été ensuite diffusé dans des festivals. Alors il se trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer avec Garçons sensibles, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Donc peut-être, oui, d'accord. Peut-être qu'il aura une seconde vie sous une forme différente prochainement, mais c'est un peu en train de se mettre en place.
D'accord. Alors, je rappelle donc les différents films. Madame Hoffman qui sortira au printemps 2024 au cinéma.
En avril 2024,
oui. Avril 2024. Casa Susana qui est actuellement sur le site d'Arte. Adolescente actuellement sur Netflix. Bambi sur MyCanal. Et puis après, quasiment tous vos films sont disponibles en DVD ou en VOD pour ceux qui voudraient découvrir plus largement votre travail.
Et Casana va sortir en DVD. On va faire un DVD spécial avec des scènes supplémentaires et tout ça.
Ah super. Ah, okay. Donc là, bientôt, vous avez...
Il sort au mois d'octobre, je pense.
D'accord, très bien. Bah, merci pour cette précision. Sébastien Lipschitz. Oups, pardon, je reprends. Merci Sébastien Lipschitz. Oups, ah, je vais refaire. Excusez-moi. Sébastien Lipschitz. Sébastien
pour le
Lipschitz.
Refait.
Merci. Je dois le refaire. C'est pour le bêtisier. Sébastien Lipschitz, merci. Ah, j'arrive pas, je suis désolée.
Lipschitz.
Lipschitz. Sébastien Lipschitz, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Allô Ciné.